Probablement remarqué, la durabilité des produits que nous choisissons est devenue un enjeu de plus en plus important dans notre vie quotidienne. C'est même devenu un enjeu clé pour les entreprises qui cherchent à réduire leur impact sur l'environnement et à répondre aux attentes des consommateurs. En choisissant des produits tech plus durables, nous pouvons réduire notre impact sur l'environnement et économiser de l'argent à long terme en évitant les coûts de remplacement fréquents. Choisir des produits tech plus durables, ça signifie aussi choisir des produits conçus pour durer plus longtemps, des produits qui peuvent être réparés et mis à niveau plutôt que jetés et remplacés. Mais, et tu l'as peut-être déjà remarqué, la durabilité ne se limite pas aux avantages environnementaux et financiers. Non, les produits tech plus durables peuvent également offrir une meilleure expérience utilisateur. Ils sont conçus pour durer plus longtemps et sont souvent plus performants et plus fiables. Alors, choisir des produits tech plus durables, qu'est-ce que ça change pour la planète? Et si vous pouviez choisir entre deux entreprises proposant des produits similaires, mais que l'une d'entre elles était connue pour son engagement envers la durabilité, laquelle choisirais-vous? Que choisirais-tu? Pour bien comprendre ce que le fait de choisir des produits plus durables change dans tout le modèle, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour tous, Benoît Delporte. Il est cofondateur de Bilong, le site de e-commerce qui propose des produits sélectionnés pour leur durabilité. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Ravi de t'accueillir ici. Première question, avant de prendre les questions des participants qui sont en direct avec nous sur LinkedIn et sur Twitch. D'où est venue l'idée, d'où est venue l'étincelle de monter Bilong, cette entreprise qui propose des produits sélectionnés pour leur capacité à s'engager dans une relation durable? Ça t'est venu comment, cette idée?
Alors, nous, en fait, on est parti à la base sur notre concept. C'était un magasin un peu comme VP, tu vois, sur un déstockage des produits électroménagers. Et on a construit ce magasin-là. Et puis, au bout de 2 ans, avec mon associé, on s'est posé la question de dire, mais comment on peut avoir, nous, de l'impact et comment on peut reproduire ce qu'on fait personnellement de notre côté en limitant notre impact écologique? Comment on peut le faire dans notre boulot? Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un phénomène en 2014-2015 qui était de plus en plus prégnant, qui était l'obsolescence programmée, et qu'on voyait qu'il y avait de moins en moins de réparateurs et que les produits duraient de moins en moins longtemps. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Et on s'est dit, je pense que nous, notre ambition, comment on peut faire en sorte de transposer ça professionnellement, c'est de faire durer les produits les plus longtemps possible. Et du coup, c'est là qu'on a lancé Bilong, et qui s'appelait Ma Garantie 5 ans avant, où on a sélectionné les produits les plus durables et on les a garantis 5 ans gratuitement.
Bien vu cette étincelle. Comment vous y prenez pour sélectionner les produits justement sur votre site?
Nous, on existe depuis 2012, donc du coup, on a pas mal de data sur les taux de PAM. Et du coup, en fait, depuis 2016, qu'on a lancé le site internet, on a créé ce qu'on appelle un indice de durabilité. En fait, on est les premiers à avoir créé ça en France, / en Europe, où en fait, on ne sélectionne sur notre site que des produits durables selon l'indice qu'on a créé. Et l'indice, en fait, il se base sur 4 grands critères, qui est le taux de PAM, qui représente 30% de la note, la disponibilité des pièces détachées pour que le produit puisse être réparé facilement. On demande aussi aux consommateurs, quand ils changent le produit, combien de temps ils ont gardé leur ancien produit pour savoir quelle est la durée de vie moyenne d'une marque et du produit. Et on prend aussi un score de fiabilité d'une association de consommateurs. On matrice tout ça, on crunch toute la data et ça nous donne un indice. Et du coup, nous, le parti pris qu'on a par rapport à tous les autres, c'est qu'on ne prend que des produits durables. Donc en fait, tous les produits qui étaient dans notre catalogue au début, tous ceux qui ne répondaient pas aux critères qui étaient 80 de score minimum, on les a enlevés du catalogue et du coup, on n'a pris que les produits qui avaient un score minimum de 80.
Quand tu dis, la data est au centre, vous avez enlevé tous les produits qui ne passaient pas la barre des 80, globalement, vous en avez enlevé quel pourcentage ?
On a enlevé 25% à peu près.
25%. Je prends la question de Laura, qui est sur Twitch et qui te demande, pourquoi ce changement de nom? Est-ce que c'est lié à une envie d'internationalisation?
Alors pourquoi on a changé de nom pour deux raisons. La première raison, c'est que nous, en fait, notre concept, il est sur la durabilité. Et la durabilité, elle peut s'exprimer d'une manière. Un produit durable, il peut être garanti 5 ans, mais il peut être garanti 10 ans, garanti à vie. Il peut être garanti 2 ans, mais reconditionné. En fait, la durabilité, elle s'exprime de mille et une manières. Et nous, aujourd'hui, bah, du coup, garantie 5 ans, ça nous bloquait sur le fait que, bah, en fait, on pouvait vendre que des produits garantis 5 ans. Et là, le fait de s'appeler Bilong, faire durer, être long en anglais, nous permet d'exprimer la durabilité bah, de plusieurs manières et de ne pas se cantonner à des produits garantis 5 ans. On va pouvoir se lancer sur le reconditionné bientôt, on va faire du meuble et de la cuisine garantie 7 ans. Et de ne pas se poser de questions quand, en fait, la garantie 5 ans n'est qu'une exécution de la promesse de durabilité. Et nous, on est sur la durabilité et la garantie 5 ans n'est que la promesse.
Bien vu, bien vu. Et là, sur la deuxième partie de la question de Laura, il y a aussi une envie de partir à l'international ou pour l'instant, vous êtes vraiment franco-français ?
Alors aujourd'hui, on est franco-français, mais on s'est dit que autant si on change de nom, autant penser au coup d'après que si on est amené à aller à l'international sur les pays limitrophes de la France, autant avoir un nom qui nécessite pas de le changer dans 2 ans parce que on s'appelle Ma Garantie 5 ans et que en allemand ou en anglais, ça passe pas très bien.
Plus très clair. Je prends la question de Valérie qui te dit vous refaites tourner le score à quelle fréquence par produit ?
On refait tourner le score tous les ans. Donc là, on va refaire tourner le score là d'ici un mois où en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend à nouveau le taux de panne et la disponibilité de pièces détachées qu'on renouvelle tous les ans parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé parce qu'il y a l'indice de réparabilité qui a été mis en place par l'État sur certaines catégories qui a poussé les marques en fait à augmenter la disponibilité des pièces détachées sur leurs produits. Et donc, nous, on est obligé de revoir notre indice, en fait.
Justement, puisqu'on parle des marques, vous avez fait passer votre score. Tu nous dis que vous avez enlevé 25% des produits du catalogue. Bon, vous travaillez avec des grandes marques. Certains de leurs produits, peut-être, se sont fait sortir de la photo. Comment ils ont vécu ça ?
Quand on a lancé ça en 2016, après en 2019, on n'était pas aussi gros ou visible qu'aujourd'hui, mais ils n'ont pas trop compris au début quelle était la démarche, parce que pour eux, leur produit était durable. Alors après, on leur a expliqué que ce n'était pas une sanction, mais que nous, en fait, on avait une exigence forte par rapport aux clients, en fait, par rapport à la satisfaction et par rapport aussi à la planète, de faire durer les produits les plus longtemps et que mettre sur le marché des produits qui ne correspondaient pas à nos exigences environnementales et pour nos clients n'étaient pas conformes pour nous. Donc, en 2016-2019, c'était quelque chose qui n'était pas forcément audible autant qu'aujourd'hui. En 2022, avec ce qu'on a entrepris, nous, ce qu'a pu faire Darty comme le choix durable ou l'indice de réparabilité ou l'indice de durabilité que l'État est en train de prôner aussi de son côté, on voit que les marques maintenant sont sensibles à ça et que maintenant elles valident notre démarche et qu'elles comprennent et elles essayent de voir comment nous on l'a construit, c'était quoi notre démarche pour qu'elles aussi elles s'améliorent parce qu'en fait ce qu'on a créé nous devient en fait une norme globale française / européenne. Donc pas que nous sommes complètement à l'initiative de ça, mais le mouvement qu'on est en train de créer avec différents acteurs dans la réparation, avec Darty, etc., fait que ça pousse les marques à mettre sur le marché des produits de bien meilleure qualité.
Ça veut dire que la formule, elle est mise en open source, cette formule, pour mesurer ces indices ou pas ?
La formule, elle n'est pas mise en open source parce que pour avoir échangé pas mal avec nous, on travaille pas mal sur GT transversaux, on l'a fait pour l'indice réparabilité, un peu moins sur durabilité, c'est que notre indice de durabilité, il travaille pas mal sur le passé. Et donc du coup, en fait, tu dois avoir en fait une analyse du taux de panne dans le passé et quand tu mets sur le marché des nouveaux produits, tu connais pas son taux de panne, tu connais pas son combien de temps les consommateurs l'ont gardé, etc. dans le passé. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui est réplicable. Donc la nouvelle mouture de l'indice de durabilité qui va être fait par l'ADEME, par le GIFAM et par l'État français, ne s'inspire pas, enfin prend en considération nos travaux, ce qu'on a fait, mais c'est pas quelque chose qui est réplicable à l'échelle globale en fait.
Très clair, très clair. Tiens, je te pose la question, c'est celle de Vincent. Il te demande quel est le lien réel entre grande marque, prix bas et durabilité réelle.
Il y a quand même une vraie corrélation. Je vais prendre une petite anecdote. Tu prends par exemple un lave-linge miel, qui est des produits qui sont les plus durables chez nous, qui ont un indice de 99 ou 98 chez nous. En termes de conception, c'est des produits qui n'ont pas changé. Alors, c'est des produits qui valent entre 700 et 1000 euros, mais le poids d'un lave-linge miel, c'est toujours à peu près 80-90 kilos. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait de compromis sur le choix des matériaux qu'ils ont mis dans leurs produits. Et du coup, les produits, ils sont aussi durables qu'il y a 20 ou 30 ans. Et que quand vous achetez un produit miel, vous pouvez le garder 10, 15, 20 ans. Si vous prenez un produit, maintenant, aujourd'hui, vous êtes capable de trouver un lave-linge, enfin, je ne vais pas citer de marque, mais un lave-linge à 200-250 euros. 250 euros, vous en avez pour votre argent. Et le lave-linge, il va durer moins longtemps, il va laver moins bien, il va faire attention moins aussi aux vêtements, etc. Donc forcément, il y a une corrélation.
Ok, je vais prendre la question de Charles, parce qu'on parle de durabilité. Bien évidemment, ça s'inscrit aussi dans des objectifs de développement durable. Charles te pose la question et te dit, est-ce que la distance avec les fournisseurs, parfois en Chine, impacte vos choix pour mettre ou retirer des produits du catalogue?
Aujourd'hui, non, parce que malheureusement, il n'y a quasiment aucun produit qui sont produits en France, à part la marque de Dietrich sur les fours et sur les plaques de cuisson. Et si on avait voulu faire un site internet où on ne sélectionne que les produits avec les kilomètres, les distances où sont produits les produits, ça aurait été assez délicat parce que beaucoup se font quand même en Asie. Mais il faut faire attention, il ne faut pas mélanger l'origine du produit et son impact écologique, parce que vous prenez un iPhone, c'est des produits qui sont très qualitatifs, avec un cahier des charges qualitatif, ils sont tous faits en Chine. Vous prenez un lave-linge Samsung, il est fait en Corée du Sud, pareil pour les LG, ou un peu en Chine, ou parfois dans des pays limitrophes, n'en demeure moins que ça reste des produits de qualité.
Autre question, c'est celle de Valérie. Elle te dit, est-ce que les difficultés d'approvisionnement dues à la situation actuelle ont une influence sur les scores ou pas du tout?
Alors, pas sur les scores, mais sur les ventes.
Sur les ventes, d'accord.
Non, mais c'est vrai qu'on a, enfin, tout le monde connaît les difficultés d'approvisionnement. Et du coup, ça fait 2 ans, effectivement, qu'il y a il y a beaucoup de produits où on n'a pas les différents composants. Donc, impossibilité de les mettre à la vente, ou que tout simplement les composants ont explosé en termes de prix. Du coup, c'est une répercussion sur le prix d'achat et de facto sur les prix de banque, donc des produits moins vendables. Mais pas d'impact sur la durabilité. On ne sanctionne pas les marques là-dessus.
Tiens, Anne te pose une question. Bilong, c'est une équipe de combien de personnes?
Aujourd'hui, on est 30.
30.
On est 30 personnes à Marne-la-Vallée, à côté de Disneyland Paris.
Ok, noté. J'ai une question à te poser, moi, c'est concernant tes clients. Qu'est-ce qui les caractérise des clients qui achètent sur des sites traditionnels de e-commerce, sur des produits de la maison, par exemple? Qu'est-ce qui les caractérise?
Alors, les clients qui achètent chez nous, c'est principalement des clients qui ont des attentes sur la durabilité et qui comprennent les enjeux actuels et qui comprennent que c'est mieux de faire durer un produit le plus longtemps possible que d'essayer de le renouveler. Donc, quand ils achètent chez nous, ils ont la conscience que le produit va durer un peu plus longtemps que les autres normalement, et surtout qu'ils ont la garantie qu'il dure un peu plus longtemps parce qu'il est garanti 5 ans. Donc, il y a une recherche sur le côté environnemental. Après, il y a une recherche aussi du côté prix, parce qu'on est quand même un peu moins cher que les grandes enseignes et on est garanti 5 ans. Donc, il y a un rapport environnemental-prix qui est quand même assez intéressant, parce que c'est vrai que, mine de rien, on le voit souvent dans toutes les études, pour engager les gens, ils veulent pas, ils veulent avoir un impact écologique, mais ils veulent pas que ça leur coûte plus cher qu'un autre produit normal, en fait. Ouais. Donc ça, c'est important dans notre pour les clients. Et c'est important dans l'exécution qu'on doit avoir, c'est d'avoir une garantie 5 ans, un indice de durabilité, mais des produits qui soient au bon prix, quoi.
Alice te pose la question, elle te demande, est-ce que vous avez prévu de proposer des PC et des smartphones ?
Sur les PC, on n'a aucune expertise. Sur les reconditionnés du smartphone, c'est quelque chose... Sur les smartphones, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire sur les neufs, parce qu'aujourd'hui, c'est des produits qui ont des durées de vie qui sont très, très restreintes. À la limite, nous, notre positionnement, c'est de faire durer tous les produits les plus longtemps possible. Certainement, travailler sur du smartphone reconditionné ou peut-être sur de l'électroménager reconditionné.
Tiens, Fabrice te demande, vous visez aussi le réemploi et l'occasion ?
Oui, voilà, exactement. Donc là, on est en train de travailler justement en interne sur comment on va pouvoir réutiliser et remettre sur le marché des produits électroménagers, en commençant par des lave-linges, des sèche-linges et les lave-vaisselles. Et après, on y envoie tout ce qui est smartphone. Sachant que nous, on a plus l'expertise sur le gros électroménager et pas trop sur, et pas du tout même sur tout ce qui est téléphone. Sachant qu'il faut savoir que sur l'économie du smartphone reconditionné, c'est beaucoup de sourcing. Tous les sites qui vendent du reconditionné, c'est en général du sourcing de produits reconditionnés, mais ils ne reconditionnent pas eux-mêmes.
Autre question, et ça sera peut-être la dernière question avant la fin de l'enregistrement de cet épisode du podcast. Je voulais savoir comment les fabricants, parce que tu as une position d'observateur très intéressante par rapport au marché, quelle est l'évolution que tu vois chez les fabricants en matière de produits plus durables ?
Nous, on a vu une accélération nette depuis un an et demi, de la part des marques, depuis que l'indice de réparabilité a été mis en place. Ils nous questionnent énormément sur notre démarche, sur quelles sont les attentes clients. Et donc, on le voit nettement maintenant, tous les produits qui sont mis sur le marché, qui ont un indice de réparabilité élevé, qui sont les lave-linges, et les lave-linges, il va y avoir les tondeuses, les différents, il y a une dizaine de produits. Les indices sont vraiment à la course, les marques sont à la course à créer des indices les plus élevés pour créer la préférence de marque, pour rassurer les clients sur le fait que les produits sont facilement réparables. On voit qu'ils nous sollicitent de plus en plus pour faire des partenariats, pour essayer de justement de valoriser leur ADN ou pas de marque durable. Certaines cherchent à faire un peu du greenwashing, d'ailleurs.
Soyons vigilants.
Mais voilà, elles cherchent vraiment à aller dans ce sens-là, parce que de toute façon, c'est une attente des consommateurs, c'est une attente des médias. On voit que l'État pousse pour ça, et puis c'est une attente de la planète, tout simplement, et qu'à un moment, ils ont pas trop le choix que d'y aller. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent, les marques, tout ce qui est R&D et innovation, ça se passe dans les pays, soit dans les pays d'Asie, soit en Europe, et que les considérations environnementales ne sont pas du tout les mêmes dans leur pays, et que l'indice de réparabilité, on est les seuls en France, et l'indice de durabilité pour nous à l'avoir. Donc du coup, ces conceptions-là, à la base, elles ne sont pas prises en compte. Ce qui est vrai et ce qui est fort, c'est que dans notre pays, quand même, il y a plein de choses qui se passent mal, mais il y a des choses qui se passent bien. Il faut savoir qu'on est quand même en avance sur l'indice de réparabilité et sur l'indice de durabilité, et qui pousse du coup quand même des grands groupes à changer leur R&D, leur innovation, leur façon de développer des produits au niveau global. Et du coup, ça va ruisseler tout ça sur tous les autres pays, dans tous les autres continents, parce qu'en fait, cette contrainte, elle est envoyée au niveau du développement global. Et bah, du coup, ça va ruisseler ensuite partout dans le monde pour avoir des produits qui durent plus longtemps. Ouais. Et que même produits qui sont des marques de distributeurs ou qui sont des produits entrée de gamme doivent avoir un indice. Maintenant, les gens regardent, même si ce n'est pas le critère de choix numéro un, les gens regardent l'indice de réparabilité, et d'avoir un indice de 6 alors que tout le monde est à 8 ou à 9, eh ben, ça monte le marché. Ça oblige les constructeurs à mettre sur le marché des produits de meilleure qualité qui vont, alors, pas durer forcément plus longtemps, parce qu'ils sont des indices de réparabilité, donc sur capacité à être réparés, mais au moins des produits, voilà, qui sont plus facilement réparables, et slash peut-être de meilleure qualité.
C'est génial, ça nous ouvre. Donc, on va dire Sustainable by Design ou Durabilité by Design. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Benoît, d'être passé ce matin dans cet épisode du podcast. Et bravo pour cette aventure passionnante. Merci à toi.
Merci à toi, merci à tout le monde.
Merci beaucoup, merci à toi et à vous tous d'avoir participé jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast sur ta principale plateforme de balado-diffusion, le digital pour tous. Tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager autour de toi. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.